Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » Dans ce passage, nous voyons une vérité qui est tellement importante, c'est que celui qui bâtit l'église, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Bien sûr, il se sert de certains ouvriers. Il se sert de ses enfants pour bâtir son église. Mais celui qui projette, celui qui a la vision, celui qui a la stratégie, celui qui sait comment l'église doit être construite, c'est le Seigneur Jésus. Et je prenais cet exemple de quelqu'un qui fait bâtir sa maison. Vous savez, on a ce qu'on appelle un maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire de la maison, celui qui va l'avoir, qui va en profiter par la suite. C'est celui qui sait comment la maison va être construite. Il sait s'il veut 3 chambres, il sait s'il veut 4 chambres, il sait s'il veut un étage, il sait s'il veut une terrasse. Il sait comment va être sa maison. Et puis, il y a le maître d'œuvre. C'est l'entreprise, les professionnels du bâtiment avec les ouvriers qui mettent en opération tout cela. Qui est le maître d'ouvrage? C'est le Seigneur Jésus qui sait comment est son église, qui sait comment la bâtir, qui sait exactement ce qu'il veut faire. Et qui est le maître d'œuvre? C'est le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous fait travailler et qui vérifie si on fait bien les choses. Et nous sommes ouvriers avec Christ, nous dit la parole de Dieu, par sa grâce, parce qu'on ne le mérite pas du tout, mais le Seigneur nous fait grâce de pouvoir être ouvriers avec lui. Il nous fait même grâce d'être des pierres vivantes dans sa maison. Et pour bâtir efficacement à la manière dont le Seigneur veut que nous bâtissions, il faut que nous sachions ce que Jésus attend de nous. Il faut que nous ouvrions notre cœur à ce que le Seigneur demande. Qu'est-ce que Jésus veut de son Église? Qu'est-ce que Jésus veut que son Église soit? C'est ça surtout la bonne question. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus de l'Église? Alors dans sa parole, dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup d'images qui sont données. Il y a le corps de Christ, l'épouse, la famille de Dieu, il y a le temple. Mais c'est pas ça que je voudrais voir ce matin avec vous. Il y a une parole que le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, et quand il a considéré son église, il a dit cette parole particulière. C'est dans Matthieu toujours, mais au chapitre 21, verset 12. Matthieu chapitre 21, verset 12, c'est ce moment où il entre dans le temple et il voit toutes sortes de personnes qui sont là, qui devraient pas y être. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Vous avez vu de quelle manière le Seigneur Jésus parle? Cette vision qu'il a des choses, il veut que l'Église soit une maison de prière. Et quand on regarde tout le Nouveau Testament, la vie de Jésus, on voit pas d'autre endroit où le Seigneur parle de l'Église. Il parle bien sûr dans des paraboles, mais là, de manière précise, il veut que ce qui se passe dans une Église, ça soit la prière. Parce qu'il y a une priorité, il y a un accent qui est mis sur la maison de prière. Ma maison, dit le Seigneur Jésus, sera appelé une maison de prière. Voilà comment Jésus y voit les choses. Voilà le plan qu'il dresse devant nous. Voilà comment le Seigneur Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui a donné sa vie à la croix pour que nous soyons rachetés, qui nous donne un cœur nouveau, voilà ce qu'il veut que nous fassions de chacune de nos vies. Que nous soyons de ceux et de celles qui prient. Vous avez vu cette opposition entre la maison de prière d'un côté et la caverne de voleurs. Le problème, c'est qu'il est là. Soit on est une maison de prière, soit on est une caverne de voleurs. Et à l'époque de ce passage, les gens, ben, ils faisaient toutes sortes de choses. En plus, c'était, entre guillemets, ça avait l'air religieux parce que ils vendaient des animaux qui allaient servir au sacrifice.
ils vendaient des pigeons, ils vendaient des chèvres, ils vendaient des boucs, ils vendaient des agneaux. Tout ça, ça allait servir pour obéir à la Torah. Sauf qu'il y avait tout un trafic qui s'était installé, et les gens venaient là plutôt pour acheter leur bétail et échanger leurs pièces de monnaie, que d'adorer et de louer le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que Jésus réagit de cette manière. Alors il y en a malheureusement qui prennent ce passage pour excuser leur colère. J'ai entendu des gens qui disent « Ah, moi aussi j'ai une sainte colère, et j'ai le droit de m'énerver parce que c'est une sainte colère. » Alors là vous vous trompez de combat mes amis. Le seul qui a cette capacité de manifester la colère de Dieu tout en étant plein d'amour, c'est le Seigneur Jésus. Et pour ces personnes, ils avaient besoin de comprendre ces choses. Ils avaient besoin que table rase soit faite dans le temple pour que la place soit faite. Vous avez vu juste après que le Seigneur ait fait le ménage, il y a des boiteux, il y a des aveugles qui viennent. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des guérisons. Il y a la l'onction de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste juste après le moment où la maison de prière est rétablie. Je ne sais pas si vous voulez voir des miracles, je ne sais pas si vous voulez voir pas des aveugles seulement physiques, mais surtout spirituels, c'est surtout ça qu'on veut. Des aveugles spirituels, des personnes qui sont perdues, des personnes qui sont boiteux, qui n'arrivent plus à avancer sur le chemin de la vie, qui puissent être totalement restaurées, qui puissent être amenées sur les voies de Dieu. C'est possible par la puissance du Saint-Esprit, seulement si on est une maison de prière. C'est ça la vision que Jésus a de l'Église. Ça ne signifie pas qu'il faut s'enfermer dans une grotte et faire que prier tout le reste de notre vie. Ça, c'est quelqu'un qui est pas équilibré aussi qui va faire ça. Ça ne signifie pas non plus qu'on ne doit rien faire d'autre, qu'on ne doit pas servir le Seigneur dans tout ce qu'il va nous demander de faire. Mais réfléchissons-y un instant. Combien de temps, quand je viens dans le rassemblement des frères et sœurs, combien de temps je prends dans la prière? Et combien de temps je prends à d'autres choses? C'est très bien les cantiques. Moi le premier, j'aime chanter les cantiques du Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas dit « Ma maison sera appelée une maison de cantiques ». Il a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». C'est merveilleux de chanter les cantiques, il ne faut pas renoncer à tout ça. Mais qu'est-ce qui est notre priorité? C'est merveilleux de faire du bien si on en a la possibilité d'aider des personnes qui sont dans la détresse. C'est très bien qu'on puisse pouvoir à ces personnes-là. Le Seigneur n'a dit de ne pas fermer notre cœur à celui qui est dans le besoin. Mais il n'a pas dit notre maison, ma maison sera une maison de bienfaisance. Il a dit ma maison sera une maison de prière. Alors rassurez-vous, si vous êtes une maison de prière, si on est ensemble une maison de prière, alors on va avoir cette envie d'aider notre prochain, cette envie de faire du bien, cette envie de secourir, et etc., etc. Le Seigneur n'a pas dit « ma maison sera appelée une maison de théologie ». Ah, il faut que tous les chrétiens ils connaissent par cœur tous les versets de la Bible. Il faut qu'ils connaissent toute la doctrine par cœur. Non, ma maison sera appelée une maison de prière. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Voilà les paroles du Seigneur Jésus pour nous ce matin, pour chacun d'entre nous, que nous puissions être, et chacun pour notre part aussi, cette pierre vivante qui résonne de cette parole. Oui Seigneur, je veux que ma vie soit une vie de prière. La prière, c'est une preuve que j'ai abandonné l'égoïsme de mon cœur, de ma nature pécheresse, et que je m'intéresse à tout ce qui se passe envers les autres. Quand on prie pour les personnes qui nous entourent, quand on prie pour les besoins, quand on prie pour les missionnaires, quand on prie pour les églises persécutées, quand on tourne nos yeux vers les besoins des personnes, pendant qu'on prie, le Seigneur, il s'occupe de nos affaires à nous. Et le problème, c'est que souvent, on prie pour nous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Ah oui, on est des intercesseurs, mais on est des intercesseurs égoïstes. Bien sûr que le Seigneur veut nous bénir. Bien sûr qu'il faut prier pour nous. Mais si on fait que ça dans notre vie, on n'est pas équilibré. Et on a besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Ma maison sera appelée une maison de prière. La prière, c'est cette preuve que j'aime l'œuvre de Dieu, que j'aime l'Église, que j'aime les frères et sœurs, que j'aime Dieu. La Bible nous dit que si je n'aime pas mes frères et sœurs, comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu? Je suis un menteur. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Vous arrangez avec elle. Si je n'aime pas les frères et sœurs, je suis un menteur. Et quand je prie pour mes frères et pour mes sœurs, mon frère qui traverse une maladie, ma sœur qui est dans une épreuve particulière, quand je prie pour elle, quand je m'associe dans la prière, il y a une onction de Dieu quand des hommes et des femmes s'unissent ensemble. Regardez ce qui s'est passé le jour
dans Acte 2, le jour où les apôtres, où les disciples se sont retrouvés tous ensemble pour s'unir dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? L'onction de Dieu est descendue sur toute l'assemblée. Il y a eu le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Et ils ont pu être des témoins, ils ont pu apporter la bonne nouvelle. Et le chapitre 4, c'est la même chose. Ils prient ensemble, Seigneur, remplis-nous de toi pour que nous ayons l'assurance de parler de toi autour de nous. Et exactement, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maison de prière. Quand Pierre il était enchaîné dans sa prison et que l'église était en train d'intercéder, de prier, les portes se sont ouvertes, un ange a été envoyé, les chaînes sont tombées. Voilà ce qui se passe quand l'église est une maison de prière. Et bien sûr, il n'est pas question d'avoir une prière religieuse, il n'est pas question de venir à la réunion de prière pour faire plaisir au pasteur et pour faire élever sa voix, pour comme ça il a noté que j'ai prié, c'est pas ça. La Bible nous dit ce que c'est la vraie prière que Dieu il entend. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est cette prière-là qu'il faut faire. Et quand on regarde de manière profonde ce que le texte veut dire, c'est finalement la prière agissante du juste. Est-ce que vous connaissez la prière agissante? C'est quelque chose de spécial quand même, la prière agissante. C'est la vraie prière, c'est celle que Dieu il attend. La prière fervente, c'est-à-dire que je prie pour quelqu'un qui m'a blessé, et plus je prie pour elle, c'est impossible, parce que je prie pour elle, que le pardon de Dieu ne me soit pas accordé. Sinon, je prie pas vraiment pour elle, sinon j'ai une pensée pour elle. Mais si je prie et que je suis sous l'onction de Dieu pour prier pour la personne qui m'a fait du mal, alors Dieu va me donner la force de lui pardonner. Dieu va me donner la force de me réconcilier avec. Ça, c'est la prière agissante. Et quand vous lisez le contexte de Jacques où il est question de cette prière fervente du juste, il est dit « confessez vos péchés les uns aux autres ». C'est ça la prière. La prière, c'est pas juste « je pense à cette personne, mais je n'irai jamais le voir, je lui dis plus jamais bonjour parce qu'elle m'a trop blessé ». La prière agissante, c'est celle qui laisse le Saint-Esprit agir dans sa vie pour faire les œuvres que le Seigneur demande que nous fassions, pour obéir à sa parole. C'est quand j'arrive à voir les choses comme le Seigneur Jésus les voit. Est-ce que ça arrive qu'on nous blesse? Est-ce que ça arrive qu'on nous fasse mal? Vous inquiétez pas, si vous l'avez jamais vécu, ça viendra assez tôt. Et des fois, on le fait même sans le vouloir. Des fois même, j'ai blessé sans le vouloir. Mais parce que je connais la prière agissante. Si je suis au courant que j'ai blessé quelqu'un, mais je vais aller lui demander pardon. Parce que je ne veux qu'il y ait aucun obstacle à l'onction de Dieu. Vous savez, on peut faire de belles prédications. On peut dire de merveilleux versets, on peut chanter de merveilleux cantiques, mais si on n'a pas prié avant, ça sert strictement à rien. Ça va être de la religion, ça va être de belles paroles, mais c'est tout. Tandis que s'il y a la prière et s'il y a l'onction du Saint-Esprit, alors il y a quelque chose qui va changer dans les cœurs et dans les vies. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Je veux que ma maison soit une maison de prière ». Vous allez me dire, mais moi je prie dans mon coin à la maison, moi je prie tout seul, c'est déjà très bien. Bien sûr que c'est bien, mais pensez à une équipe de foot. Tout le monde s'entraîne chacun chez soi, et puis le jour du match, ils jouent ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ils se font écraser, parce qu'ils n'ont aucune cohésion d'équipe. Ils n'ont aucune habitude de se passer la balle, de savoir comment lui il joue, s'il court vite ou s'il court pas vite. C'est exactement ce qui se passe quand chacun prie de son côté. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir ces moments de communion. Le Seigneur, c'est le premier à nous enseigner. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça veut dire qu'il y a besoin de cette prière personnelle. Mais il y a besoin aussi de cette prière ensemble, en commun. Il y a une onction particulière à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Je ne sais pas si vous voulez la bénédiction. Je pense que oui. Mais c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, quand on s'unit. Ah, ça veut pas dire avoir de belles paroles, ça veut pas dire avoir un langage distingué. Moi, quand j'ai commencé à prier, je vous assure, j'étais le plus timide de mon groupe de jeunesse. J'avais la voix qui tremblait, les mots qui partaient dans tous les sens, mais il y a que le Seigneur Jésus qui arrivait à comprendre ce que je disais, mais au moins il entendait, et au moins je le faisais de tout mon cœur. Et j'ai été béni. Ah, il y a eu une différence le jour où j'ai ouvert ma bouche pour louer le Seigneur dans l'assemblée. Pourtant, c'était une église, il y avait 300 personnes. Et je vous assure, moi, quand il s'agissait de parler devant les gens, quand je faisais des exposés à l'école, j'étais tout tremblant, tout transpirant, tout bafouillant. Et puis, quand on ose ouvrir la bouche pour le Seigneur,
C'est lui qui remplit. Et combien de fois j'ai ouvert la bouche? Je savais pas ce que j'allais dire, mais le Seigneur Jésus, il remplissait ma bouche. Et il y avait des flots de louanges qui coulaient parce que le Saint-Esprit était dans mon cœur. Parce qu'avant de venir au culte, avant de venir à la réunion, j'avais passé un instant dans sa présence. Seigneur, bénis-moi. Que je sois une source de bénédiction. Seigneur, garde-moi d'aller à l'église et de rester quelqu'un qui n'ait fait que demander, que recevoir, que prendre et ne jamais donner quoi que ce soit. J'étais un chrétien assis sur ma chaise. Mais j'avais ce désir d'être une bénédiction. Et j'ai encore ce désir. Et tous les jours de ma vie, ça ne fait que grandir ce désir d'être une bénédiction. Mais je crois que le Seigneur veut que nous soyons tous, autant que nous sommes, que nous soyons tous des bénédictions. Comment c'est possible? C'est possible quand je prends ce temps dans la prière personnelle, dans la prière avec les frères et sœurs. C'est possible quand je laisse l'onction de Dieu conduire ma vie. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble pour combattre le bon combat de la foi. Et vous inquiétez pas, je ne serai pas dérangé, je ne serai pas embêté si vous me dites, il faudrait qu'on fasse une réunion de prière encore plus, une de plus dans la semaine, parce que celle qu'il y a là, je peux pas venir. Il faudrait qu'on en fasse à un autre moment. Ça me dérangera pas si vous venez me voir et me dire, j'aimerais prier, mais je peux pas, parce que il y a ci, il y a ça. Mais si on le fait à un autre moment, je voudrais prier. Je serai là. Vous inquiétez pas, je serai pas dérangé. Parce que quand il s'agit de prier, c'est la priorité que nous devons avoir. Si nous voulons que des âmes viennent dans cette église, le Seigneur permet que ça se fasse. Mais si nous voulons que d'autres âmes encore viennent, il faut passer par la case prière. Et il faut avoir cette flamme pour la prière. Sinon, Jésus a dit que nous serons une caverne de voleurs. Comment est-ce qu'une maison de prière peut se transformer en caverne de voleurs? Là, c'est quand les Juifs, ils prenaient la place de la prière, ils prenaient l'endroit, la maison de Dieu, ils venaient faire toutes sortes d'affaires que Dieu leur demandait pas de faire à cet endroit-là. C'est comme le maître d'œuvre qui ne respecte pas les consignes du maître d'ouvrage. Vous voyez? Il y en a un qui dit, voilà, je veux que la maison, il y ait 3 chambres, je veux qu'il y ait une belle terrasse, je veux que ça soit tout plein pied. Et puis celui qui construit, il dit, bon, mais moi je préfère faire 4 chambres plutôt que 3. Pas de terrasse, ça m'arrange pas. Par contre, on va faire un étage et un balcon. Vous imaginez si vous allez voir un constructeur et qu'il fait ça avec votre projet, est-ce que vous allez être content? Vous allez dire, j'ai payé, j'en veux pour mon argent, c'est moi qui commande. Et vous avez raison de le faire. Le Seigneur Jésus, est-ce qu'il n'a pas payé? Le Seigneur Jésus, est-ce qu'il n'a pas payé le prix fort? Est-ce qu'il n'a pas raison de commander? Et en plus, il commande, mais il le fait avec tellement d'amour et de bonté, de grâce, de miséricorde. Mais quand même, c'est le roi des rois, il a le droit de commander. Il a le droit de donner des ordres, des ordonnances. Qui on est pour pouvoir dire, moi je veux pas que ça soit comme ça? Qui on est pour dire, moi je pense, c'est bien la prière, mais je préfère faire autre chose. D'abord, non, ma maison sera appelée une maison de prière. Pas une caverne de voleurs. Quand les chrétiens, ils utilisent ce qui est au Seigneur pour autre chose que ce qu'ils demandent. C'est là que nous faisons une caverne de voleurs. Une église qui prie verra des miracles et des conversions. C'est obligatoire. Mais une église qui ne prie pas ne verra ni conversion ni miracle. C'est aussi simple que ça. Ce matin, je vous parle tout simplement avec mon cœur. Mais réaliser ces choses, quand on ne prie pas pour nos enfants par exemple, on les vole de la repentance, de la conversion qu'ils pourraient connaître. Vous croyez que Dieu peut toucher des enfants? Vous croyez que Dieu peut sauver des enfants? Bien sûr, quand ils sont bébés, là, je ne parle pas de cela, mais quand ils sont en âge de comprendre, est-ce que Dieu est capable de toucher? Mais il l'a fait pour moi, alors moi je suis sûr qu'il est capable. Quand j'avais 7 ou 8 ans, le Seigneur a touché mon cœur. J'ai compris la croix de manière profonde et sincère et authentique. J'ai compris tout ce que c'était la croix. Et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et je me suis repenti de mes péchés. Pourtant, à 7 ans, je veux dire, le CV, il n'était pas costaud. Mais je savais que j'avais fait le mal devant Dieu. Et je savais par contre qu'il y avait mes parents. Enfin, je ne l'ai appris pas après, que mes parents ont prié, ont intercédé pour moi. Quand on ne prie pas pour nos enfants, on les prive des grâces que le Seigneur veut faire. Quand on ne prie pas pour ceux qui sont dans l'épreuve, on les vole de voir la gloire de Dieu. On les vole d'avoir la force de tenir bon dans l'épreuve. Quand on ne prie pas pour les couples, on les vole de ne pas connaître la force de rester ensemble. Quand on ne prie pas pour les familles, on les vole de ne pas avoir
la possibilité de connaître le Seigneur et d'avoir cette vie qui s'épanouit en Dieu. Combien de familles, combien de couples, combien d'enfants sont dans des difficultés? On le sait tous, ou on sait plus ou moins pour certains. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a prié? À quel moment on a prié pour eux? Ma maison sera appelée une maison de prière. Quand on ne prie pas pour les autorités de notre ville, on prive notre ville de la protection et de la faveur de Dieu. Recherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes, parce que votre bonheur dépend du sien. On a un devoir de prier pour les autorités. C'est pas parce que ça nous fait plaisir, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous le demande. Tant mieux si ça nous fait plaisir. Tant pis si ça nous fait pas plaisir. Mais on a le devoir de prier. Pour notre président de la République, pour notre pays de France. Ah, quand il y a des attentats, là tout le monde se lève en disant « Oui, prions pour la France !» Où est ce zèle aujourd'hui? Est-ce qu'il faut attendre des attentats pour qu'on se mette à prier pour la France? Ou est-ce qu'on veut être de ceux qui prient tous les jours, semaine après semaine, année après année, mois après mois? Seigneur, tu vas bientôt revenir. Je veux prier pour mon pays, je veux prier pour ma ville, je veux prier pour mon département. Il y a tellement d'âmes dans ce département qui ne te connaissent pas. Il ne faut pas le voir de manière pessimiste. Il faut dire, Seigneur, je crois qu'il y a du travail. Je veux relever les manches et me mettre à l'œuvre. Je veux être cette maison de prière que tu me demandes d'être. Quand on ne prie pas pour les perdus, on les vole de goûter au merveilleux salut de Dieu. Mais quand on prie pour les perdus, par contre, il y a quelque chose qui se passe. C'est que le Seigneur, il entend. Vous savez qui est le plus intéressé au monde à vouloir que les hommes qui sont perdus viennent à la connaissance de la vérité? Qui c'est qui est le plus intéressé? Est-ce que c'est quel pasteur? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu est plus intéressé que nous. Et quand on s'associe au désir du cœur du Père qui est en train de battre pour ceux qui sont en train de se perdre, quand on associe notre cœur à ce cœur du Père, alors il y a l'onction de Dieu. Et ceux qui viennent à la prière ont pu expérimenter que plusieurs fois on a prié pour que des âmes viennent dans cette maison, dans cette église, et le Seigneur a exaucé. Et je voudrais vous dire que non seulement à Moissac il y a des gens qui prient, mais il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui me disent, on a à cœur l'église de Moissac, on prie pour l'église de Moissac, on demande au Seigneur qu'il y ait quelque chose de particulier sur l'église de Moissac, et parce qu'on sait toutes ces choses, et on peut que glorifier le Seigneur parce qu'il entend les prières, et parce que les choses sont en train de se passer. Mais on veut pas être satisfait en disant, oh, c'est merveilleux, merci Seigneur. On veut continuer à prier, parce qu'il y a encore du travail. On veut pas être de ceux qui volent le salut, de ceux qui volent la repentance, de ceux qui volent toutes ces choses aux personnes qui voudraient l'avoir, mais qui sont empêchées par l'ennemi. On veut être de ceux qui prient, cette maison de prière. Amen. Dans Luc chapitre 14, il y a une autre idée qui est donnée. Vous savez, c'est cette parabole où le Seigneur Jésus parle d'un repas qui est tout préparé. Luc chapitre 14, on peut lire à partir du verset 15. « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. » Et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. » Je voudrais insister sur ce dernier verset, cette conclusion du maître, « Afin que ma maison soit remplie. » La maison de Dieu ne sera remplie que des personnes qui reconnaissent leurs besoins, qui entendent l'invitation et qui acceptent favorablement l'invitation du Seigneur de venir dans cette maison. Mais vous avez remarqué, la maison sera remplie Mais il y a une conséquence aussi, c'est qu'elle sera vide de toutes les personnes qui n'ont pas mis la priorité sur l'invitation. Il y en a un qui est parti à son champ, l'autre est parti à ses bœufs, l'autre est parti à son épouse. Est-ce que c'est mal d'avoir un champ? Est-ce que c'est mal d'avoir un bœuf? Le bœuf, c'était pour le travail. Est-ce que c'est mal d'avoir une maison? Est-ce que c'est mal d'avoir un travail? Est-ce que c'est mal d'avoir une fiancée et d'aller se marier? Bien sûr que c'est pas ça. Mais ces personnes n'ont pas réalisé l'importance. Et certaines fois, nous ne réalisons pas l'importance que nous devons mettre à la maison de Dieu. La Bible nous dit, la conclusion de cette parabole, quand même, elle est forte, c'est que ceux qui ont mis après l'invitation, après leur préoccupation personnelle, ne rentreront pas dans la maison. Voilà la conclusion. Voilà pourquoi nous devons dire, Seigneur, moi je veux venir, je veux réaliser mon besoin. Seigneur, si tu m'invites, c'est qu'il y a un besoin. Si tu m'invites, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux me donner. Si tu m'invites, c'est que Seigneur, j'ai besoin d'une intervention de ta part dans ma vie. Et le Seigneur est celui qui est capable d'intervenir. On a trop vu de chrétiens qui, par manque de sagesse, ils ont délaissé leur famille. Ils ont délaissé leur enfant. J'entends des fois des vieux pasteurs qui me disent, surtout prends du temps. Prends du temps avec ta famille. Ne les laisse pas. On a trop d'exemples, je crois, tous en tête. On a vu des chrétiens des fois qui comprenaient mal l'évangile et qui possédaient rien. Moi, j'ai connu un homme à Toulouse, il était dans la rue, il connaissait le Seigneur et il avait fait la paix avec Dieu. Il était dans la rue et dès que quelqu'un lui demandait quelque chose, il donnait tout ce qu'il avait. Et cet homme, il était tous les jours dans la misère parce qu'il n'était pas équilibré dans sa gestion de l'argent. Est-ce que c'est ça que ça veut dire la parole du Seigneur? Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de lui. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut donner sans réfléchir à ce qu'on fait. Ça veut pas du tout dire ça, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut pas fermer notre cœur si quelqu'un nous demande. Mais ça veut pas dire qu'il faut donner à tous ceux qui viennent nous demander quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que souvent on réagit à l'extrême. On va trop loin du côté opposé. Et au lieu de dire, je prenais pas soin des miens maintenant, je vais vraiment m'attacher à prendre soin d'eux, mais de le faire de manière équilibrée, eh bien, on pense qu'à prendre soin des nôtres. Comme ces personnes. Ah, tu m'invites, Seigneur, c'est bien. Tu m'invites à la maison de prière, c'est très bien. Mais moi, j'ai ma famille. Mais moi, j'ai mes enfants. Mais moi, j'ai mon travail. Mais moi, j'ai ceci. Ah, ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner pour venir à la réunion de prière, attention. Mais qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui est en premier dans notre vie? Le jour, je réfléchis à ce jour-là. Le jour où on se tiendra devant le Seigneur. Le jour où le Seigneur nous dira, tu vois ce moment-là, tu aurais pu prier. Et tu allais regarder un match de foot. Et tu allais faire ceci ou cela. Qu'est-ce qu'on pourra répondre au Seigneur? Qui pourra se lever et dire, bon Seigneur, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je ne suis pas venu? Qui pourra? Personne. Tous auront la bouche fermée. Tous. Même le plus grand argumentateur de la terre, devant la puissance de Dieu, il aura la bouche fermée. Quel argument va tenir en face du Seigneur? Ce matin, je ne suis pas là pour vous mettre la pression. Loin de là. Je ne vais pas regarder, vous appeler, savoir si vous allez venir ou pas. C'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est que vous entendiez la parole qui vient du Saint-Esprit, qui vient de la parole de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que nous voulons être de cette maison de prière? Est-ce que nous voulons participer, être ces pierres vivantes qui font ce que le Seigneur nous demande? J'ai beaucoup de choses, mais je ne veux pas aller plus loin, parce que je crois que le principal a été dit. On va fermer les yeux. On va incliner nos fronts. Qui va accepter que le Seigneur fasse du ménage? Qui va accepter que le Seigneur bouscule un peu les choses? Peut-être qu'il y a eu des habitudes qui se sont installées. Les vendeurs, ils ont pris l'habitude de s'installer dans le temple. Ils ont pris l'habitude de mettre leurs animaux, de mettre leur argent. Mais ce n'était pas des choses que Dieu demandait. Et le Seigneur Jésus est venu faire le ménage et ouvrir la place pour qu'il y ait plutôt des aveugles, qu'il y ait plutôt des boiteux qui puissent trouver la guérison, qui puissent trouver la restauration, qui puissent trouver une vie nouvelle. C'est ce que nous voulons. S'il y avait des choses dans nos vies, des mauvaises habitudes qui étaient là, nous laissons le Seigneur faire son œuvre. Parce que nous désirons voir des aveugles spirituels, des boiteux spirituels, remplir la maison et connaître les délices dans la présence du Seigneur. Oh, c'est auprès de Dieu qu'est la source de la vie. C'est auprès de lui que nous pouvons trouver le secours. Tu cherches dans toutes les choses de ce monde de quoi assouvir tes désirs, de quoi abreuver ta soif, de quoi nourrir ta faim. Et tu cherches, et tu gaspilles ton temps, et tu gaspilles ton énergie. Alors que le Seigneur te dit, viens dans ma maison, viens dans ma présence. C'est auprès de Dieu qu'est la source de la vie. Ne détourne pas tes yeux vers ce qui brille à l'extérieur. Mais regarde la gloire de la maison de Dieu. Regarde la croix. Regarde l'amour de Dieu qui resplendit de manière tellement intense à la croix pour toi. Regarde le tombeau vide qui montre que le Seigneur Jésus est ressuscité et qu'il vit et qu'il entend tes prières et qu'il veut te bénir et qu'il veut te secourir. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires et ta coupe déborde. Il oint d'huile ta tête. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Voilà le programme du Seigneur pour ceux qui viennent dans sa maison. Voilà le programme du Seigneur pour tous ceux qui choisissent de faire de leur vie une vie de prière. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que nous voulons répondre à l'appel de Dieu? L'invitation nous est lancée. Maintenant, c'est à chacun. À chacun de faire le point et de répondre. Qui ce matin veut laisser l'Esprit de Dieu interpeller son âme? Qui ce matin veut dire, Seigneur, oui, fais le ménage dans ma vie. Je vais prier le Seigneur. Seigneur éternel, par la puissance de ton Esprit dans ces instants, nous désirons goûter, Seigneur, à la source de la vie qui coule dans ta maison. Seigneur, tu vois les cœurs, tu connais les âmes, tu connais les circonstances, tu connais le travail, tu connais la famille, tu connais tout cela, Seigneur. Garde-nous d'être une caverne de voleurs. Garde-nous de garder la bénédiction que pour nous. Garde-nous de ne pas penser à ceux qui se perdent. Garde-nous d'oublier les fils prodigues. Garde-nous d'oublier dans nos familles les personnes qui t'ont abandonné. Mais aide-nous à être cette maison de prière. Là où il y a l'intercession, là où il y a la supplication qui monte vers toi, une maison où ton nom est invoqué, Seigneur, c'est ça que nous désirons être. Un endroit où la présence de Dieu est manifeste, où l'onction de Dieu est manifeste, parce que il y a des hommes et des femmes qui prient. C'est là que tu envoies ta bénédiction. Ce matin, envoie ta bénédiction sur tous ceux qui prient, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui prennent du temps devant toi, tous ceux qui veulent aussi faire le ménage dans leur vie, ceux qui veulent que les choses changent, ceux qui veulent que les choses avancent. Donne des cœurs d'intercesseurs. Donne-nous de nous tenir à la brèche. Donne-nous, Seigneur, de nous tenir à la brèche en faveur de notre pays, en faveur de notre ville, en faveur des autorités de cette ville, en faveur de notre département, en faveur de toutes ces personnes qui sont dans l'affliction, qui sont dans le découragement, qui sont dans la confusion autour de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être une caverne de voleurs. Nous voulons être une maison de prière. Amen.